Court-circuit. Les doigts dans la prise.
De conscience écologique. Bonjour tout le monde et bienvenue dans Court-circuit, le programme écolo mais rigolo de Radio B, propulsé par le collectif Court-circuit. Un collectif qui regroupe des associations et des gens qui ont envie de faire des trucs en lien avec l'écologie et le Lab 01. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés aujourd'hui Anne-Sophie.
Hello.
Alex.
Salut.
Guillaume.
Salut.
Et je suis Mathilde. Les plus fidèles auditeurs et auditrices parmi vous savent que notre émission du mois dernier traitait des déclics qui nous font passer de personnes fréquentables à écolos donneurs de leçons. Je plaisante, évidemment. Aujourd'hui, on vous propose l'autre versant de cette problématique, autrement dit les freins à l'écologie. En introduction, je vous préviens, je vais prendre tous les risques et je vais citer Annie Cordy, qui disait dans sa chanson La Bonne du Curé avec beaucoup de justesse « Je voudrais bien, mais je peux point ». En effet, on s'est tous dit un jour ou l'autre « Je pourrais faire ce trajet en vélo, mais flemme ». Je pourrais me passer d'acheter des avocats, mais avec quoi je vais faire mon guacamole? En résumé, qu'est-ce qui nous empêche individuellement et collectivement d'être plus écolo? Je vous propose de répondre à cette question avec ma team de choc, en commençant par les freins concrets. Alex.
Je pensais, quel est le poids des forces pour que rien ne change? Des pubs pour des grosses voitures, ou des voyages en avion, ou des lobbies en tout genre comme l'agriculteur. Quels sont leurs impacts sur nos freins? C'est un petit peu... C'est ça que je voudrais vous développer, mais je n'ai pas vraiment encore la réponse. Quoi.
Oui, à quel point ça a une incidence sur nous. Ouais. Même si on est persuadé que les pubs, par exemple, ça n'a pas d'incidence, en réalité, ça a une incidence sur nos achats, même quand on est sensibilisé et conscient. Quoi. Ouais.
C'est particulièrement vrai, je trouve, sur le lobby de la viande, qui fait toujours passer dans les pubs les élevages pour des endroits merveilleux où les animaux sont heureux et sont dans les prairies. Et du coup, bah, on ne culpabilise pas de les bouffer.
Moi, j'ai un frein, je vais mettre un peu les pieds dans le plat, mais c'est gagner de l'argent. Quand on gagne pas mal d'argent, alors je parle pas des millionnaires, des milliardaires ou là évidemment, mais même quand on gagne très bien sa vie en France, eh ben on a beau avoir une conscience écologique, à un moment donné, on dépense et on dépense plus d'argent et on a un impact écologique plus fort. Et vous aurez beau aller acheter vos fruits et vos légumes à Biocoop, à un moment donné, si vous avez de l'argent, eh ben vous allez faire plus de voyages, plus d'activités, plus de loisirs ou vos enfants. Et donc ça aura un impact. Et donc moi, par exemple, je pense que ce serait bien de limiter les salaires pour qu'on ait justement dans cette vision écologique, alors dans la vision égalitaire aussi, mais au-delà de ça, sur une pure vision écologique, je pense que ça aurait un impact intéressant. Et puis il y a autre chose aussi, c'est que j'en ai un peu marre des discours condescendants quand on parle des pauvres, les pauvres et l'écologie. Il y a quand même très souvent une petite musique sur les pauvres qui ne savent pas manger, les pauvres qui ne sont pas conscients de l'écologie. Et voilà, c'était pour dire aussi que quand on a un salaire important en France, on a beau être conscient, en réalité, on a un impact écologique fort, quoi.
Moi, je crois que quand on a atteint un certain seuil de confort, en fait, on a du mal à faire machine arrière, en fait, simplement. Et quand on a un mode de vie, on a envie de le garder.
Tout à fait.
C'est des stats là-dessus qui disaient, j'ai les stats en France, mais les 10% les plus riches en France sont à peu près à entre 18 et 20 tonnes d'émissions de CO2 par an. Les 40% en dessous sont entre 9 et 10 tonnes. Et les 50% les moins riches en France sont à 5 tonnes. Donc, il y a un rapport de 1 à 4 entre les 50% les moins aisés et les 10% les plus riches. Donc, ça met vraiment en lumière ce que tu
Exactement.
Disais.
L'endroit où l'on vit aussi, quand on parle de freins concrets, a une incidence. On l'a déjà dit, mais c'est vrai que la pauvreté des alternatives en mode de transport en commun et c'est vraiment un frein, en fait, pour essayer de se passer de sa voiture quand on habite à la campagne. C'est la galère. Alors, au rayon des freins au changement, nous trouvons les climato-sceptiques qui nous gratifient parfois d'arguments, disons, déroutants pour nous inciter à ne pas nous en faire. Je vais vous proposer un petit jeu. Je vais vous donner le choix à chaque séquence entre deux phrases. Et une seule a réellement été prononcée. Vous devez deviner laquelle.
Ah, mais je pensais que le jeu, ça allait être de chanter Annie Cordy. Mais moi, non, tu mais m'interdis ça... de chanter, alors...
Non, ça, ça sera la séquence karaoké à la fin.
Bien...
Allez, je vais interrompre ceci. C'est parti. Alors, les arbres polluent davantage que les automobiles. Ou bien, il est préférable de se déplacer en avion pour ne pas écraser les écureuils.
Oh, la deuxième.
Oh, la deux.
La deux, elle a été réellement prononcée ou pas?
Ouais.
Pas du tout. Je l'ai inventé. C'est Ronald Reagan qui nous a dit que les arbres polluaient davantage que les automobiles.
C'est beau.
Pour limiter la pollution environnementale, il suffit de faire caca un jour sur deux. Ce sera mieux pour tout le monde. Ou bien, ça fait 4,5 milliards d'années que le climat change. L'homme n'est pas seul responsable, les dinosaures aussi, et on ne leur fait pas de procès.
Ouf, c'est possible, ça. Ouais. La deuxième, là, elle est pas mal.
Non, c'est une
encore mais t'as vraiment une sacrée imagination.
Alors, non, mais en plus, j'ai un peu triché, parce que le début de la deuxième phrase, c'est Nicolas Sarkozy qui l'avait dit. J'aurais mais j'ai inventé l'aspect sur les dinosaures. D'accord. Non, c'est notre ami Bolsonaro qui nous avait proposé de faire caca un jour sur deux. Merci,
très bonne idée.
Monsieur.
C'est que des guides suprêmes écologiques.
Ah bah oui, évidemment.
Là, on est sur du lourd.
J'ai trouvé un foyer. Le concept du réchauffement climatique a été inventé par les Chinois pour vendre plus de chips aux crevettes. Ou bien, Dieu a enterré les énergies fossiles parce qu'il adore nous voir les chercher.
J'aime bien ce côté philosophique.
La deux, moi j'aurais rigolé. Ouais.
Oui, c'est celle-ci. C'est un Américain qui est responsable de l'AFA, qui est l'American Family Association.
Ça a l'air sympa, aussi.
On adore. Quelqu'un d'optimiste nous a dit, peut-être, le ski sur neige va en souffrir, mais le ski nautique va en profiter. quelqu'un qui adore nous faire partager son quotidien, je mange des cornflakes aux OGM tous les matins au petit déjeuner, je n'ai jamais été en aussi bonne santé.
La une.
Ouais.
La deux.
C'est la une. C'est un économiste de Yale qui, en 1990, qui nous a parlé du ski. Ouais. Et on termine sur...
Comme quoi faire des hautes études.
Un réchauffement de 2 à 3 degrés ne serait pas grave, et peut-être même bénéfique en Russie, car on dépenserait moins pour les manteaux de fourrure et les vêtements chauds. Quelqu'un de pragmatique. Ou bien... manger de la viande est aussi vital que respirer, la preuve, les poissons n'en mangent pas, ils mangent du poisson.
C'est quelqu'un qui a renseigné.
La deux.
C'est la première. C'est Vladimir. Bah oui,
Quel écolo celui-là.
La deuxième, j'ai
il était content parce qu'il allait pouvoir faire pousser du blé en Sibérie. Il
avait la deuxième, je l'ai inventée et elle m'a fait beaucoup rire. Je me suis fait beaucoup rire en faisant ça. Allez, reprenons les choses sérieuses et parlons des freins psychologiques. Guillaume.
Ouais, alors ça rejoint un petit peu le climato-scepticisme. Moi, je suis plus sur... Maintenant, je trouve qu'il y a une vague climato-rassuriste en France. Donc, les gens, maintenant, on sait que le changement climatique, il est là, mais on est en train de dévier un peu le débat, soit en disant qu'on va s'en sortir, que l'homme s'est toujours adapté et que finalement... Quoi, c'est pas si grave, 2 degrés de plus. Ou alors, on va trouver un aspect technique, techno-solutionnisme. C'est une sorte de biais d'optimisme. On pense que ça va pas nous toucher, que le génie humain va trouver une solution pour enrayer le changement climatique. Alors, les avions hydrogène, les particules dans l'atmosphère pour renvoyer les rayons solaires, les aspirateurs à CO2. Ou alors, on peut aussi s'adapter la climatisation, les méga-bassines et autres mal-adaptations finalement. Donc ça, je trouve que c'est vraiment la mode du moment dans nos sociétés autour de nous.
Mais est-ce que ce n'est pas aussi parce qu'on a besoin de croire en quelque chose ? Avant, on croyait en Dieu, maintenant moins. Et voilà, maintenant, on croit dans la technologie qui va nous sauver et qui va sauver nos enfants, en fait.
Ouais, on n'a surtout pas envie de changer et que finalement, c'est une jolie porte de sortie de croire en génie humain pour ne pas changer. En disant, on va trouver une solution et puis nous, on continue à vivre comme ça.
Bah, j'avoue que les modèles d'avions solaires, moi, ça ne me donne pas des masses envie quand même. Je ne serais pas la première à aller dedans. Quoi.
Mais c'est les avions hydrogène en ce moment qui ont la cote.
L'hydrogène, là, la cote.
Ouais, pour l'instant, ce n'est pas au point, mais bon, voilà. Sinon, on peut, un peu toujours dans l'aspect psychologique, le cerveau humain, on peut trouver que le cerveau humain n'est pas forcément adapté, qu'il est dicté par des émotions primaires. notamment deux émotions primaires principales qui jouent dans cet aspect-là, c'est le statut social, donc le vouloir être un petit peu supérieur aux autres, avoir un statut social plus important, et le moindre effort. Et ces deux aspects-là ont tendance à nous laisser inactifs, et ça peut être un frein à l'action aussi.
Je rajouterais aussi le jugement des autres, en fait. Des fois, le sentiment de ne pas avoir envie d'être différent. Enfin, j'en reviens encore à l'exemple du végétarisme, mais des fois, on n'a pas, quand on est en famille et tout ça, on n'a pas... pas toujours facile d'assumer le fait qu'on mange pas de viande, qu'on mange pas comme les autres, que ça va compliquer la vie des gens, etc. Et donc du coup, des fois, on va renoncer, en fait, tout simplement.
Voilà. Et puis, il y a l'aspect aussi dissonance cognitive. On est au courant du problème, mais on n'agit pas en conséquence, en adéquation avec nos valeurs. Et là, sur la dissonance cognitive, il y a plusieurs portes de sortie. Soit on change nos comportements, donc c'est cool. Là, au moins, on est en adéquation avec nos valeurs. Mais il y a trois portes de sortie négatives qui sont des freins. Eh bien, je vais les lister. Là, il y a le déni de responsabilité. Exemple typique, le changement climatique, ce n'est pas à moi de gérer ça. Les politiques, ils font rien. On attend que les Américains, les Chinois, les entreprises, les riches, etc., Elon Musk ou ce que vous voulez, fassent. Moi, j'attends. Il y a la trivialisation. Alors, c'est minimiser l'importance des éléments. Exemple, en 2050, on a le temps de voir venir. Et puis, 2 degrés, ce n'est pas grand-chose. On profitera juste un peu plus de la piscine. Voilà. Et puis, il y a la rationalisation cognitive. Alors, c'est modifier ses convictions afin de les rendre plus conformes au comportement problématique. Oh, ça va, le CO2, c'est pas si grave, c'est bon pour la croissance des végétaux. C'était aussi utilisé par l'industrie du tabac en sortant des fausses études, en faisant croire aux fumeurs que finalement, fumer, c'était pas si mauvais que ça. C'est un peu cet aspect-là aussi. Donc, c'est trois portes de sortie négatives sur la dissonance cognitive.
Attends, fumer, c'est mauvais ?
Il semblerait.
C'est vrai qu'on a tendance à attendre des politiques. Enfin, je sais pas, il y a un espèce de truc un peu bizarre en termes de dissonance cognitive où on attend que les politiques agissent, mais on vote pas pour ceux en fait qui sont le plus crédibles à agir. Et en fait, quand ils essayent de le faire, du coup, ça réduit nos libertés et on n'est pas content. C'est un espèce de truc un peu... on n'est pas très optimiste aujourd'hui, les amis.
Hein, mais c'est sur les freins. Hein.
Oui, en même temps, c'est le thème.
Et puis aussi, on ne ressent pas forcément de manière assez intense la nécessité de bouger. Hein. La crise écologique est un processus vraiment très très long qui se met en place pièce par pièce, petit bout par petit bout. Et il faut que l'être humain réagisse surtout par la peur et quand on se sent en danger immédiat. Et le problème, c'est qu'on a tendance, le changement climatique arrivant petit à petit, on a tendance à s'habituer. Moi, j'ai des gens qui me disent autour de moi, 35 l'été, il a toujours fait 35 l'été. Non. Non, il n'a pas toujours fait 35 l'été, on ne se prend pas toujours 15 jours de canicule à 40 ou entre 30 et 40, non, ça n'a pas été que toujours comme ça.
Il faut essayer de passer les lois pendant les canicules, quoi.
Ouais, le problème c'est en août, les politiques, ils font encore moins que d'habitude.
Moi j'avais trouvé le résultat d'un sondage, vous savez j'aime les sondages, je suis désolée, j'ai un truc avec ça, c'était l'Institut Cluster 17 dans un article du Point là, de juillet qui disait que 80% des Français, 90% des Français et Françaises considèrent que la lutte contre le réchauffement climatique devrait être la principale ou l'une des principales priorités du gouvernement. Donc je pense quand même que les gens reconnaissent que c'est un problème. Mais quand on interroge ces mêmes personnes, ils sont 68% à refuser de renoncer à manger de la viande. Ils sont 60% à dire qu'ils ne sont pas prêts à payer leurs courses plus chères pour favoriser l'achat local. Ils sont même 77% à dire qu'ils ne sont pas prêts à renoncer au rêve de la maison individuelle, etc. Donc en fait, ils reconnaissent qu'il y a un problème, mais ils ne sont pas disposés à assumer les coûts de la transition dans leur quotidien. Quoi,
en fait. Après, là, tu dis « ils » au pluriel, mais en fait, c'est « nous ».
Oui,
on est tous pris face à nos contradictions, c'est-à-dire que oui, on essaye d'agir, et d'ailleurs, on est dans une émission sur l'environnement, donc voilà. Mais malgré tout, moi, la première, j'ai plein de contradictions et plein de choses que je pourrais faire encore mieux. Donc,
absolument.
On a tous cet aspect-là.
Mais on est là pour ça, rassurez-vous, hein, nous ne jugeons personne. Est-ce que tu as une petite recommandation pour nous, Guillaume ?
Voilà, un livre super sur tout ce qui est frein, il a été écrit par George Marshall. Ça s'appelle « Le syndrome de l'autruche, pourquoi notre cerveau veut ignorer le changement climatique ?» George Marshall, il a plus de 30 ans d'activisme écologique. Il a écrit ce livre il y a déjà 10 ans pratiquement, il a été traduit en 2017. Et il liste 42 points qui montrent, qui expliquent pourquoi on n'agit pas justement sur la cause environnementale. C'est assez bien documenté, ça a été préfacé par Cyril Dion. Donc c'est vraiment bien.
Super. Eh bien, merci. Merci à tous et à toutes. Notre émission touche à sa fin, mais ne soyez pas tristes, on se retrouve le mois prochain. Si vous souhaitez donner des idées de sujets ou des événements près de chez vous que vous avez envie de promouvoir, vous pouvez nous écrire à courtcircuit@lab01.fr ou sur la page Facebook du Lab01. Merci de votre écoute. À bientôt.
Ciao.
Allô.
Court Circuit. Doigts dans la prise.
De conscience écologique.